Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie, à la découverte de vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. Il est l'une des figures majeures du cinéma d'après-guerre. Avec Rome, ville ouverte et Allemagne année zéro, Roberto Rossellini transmet le manifeste d'un cinéma à ciel ouvert, loin des studios. Son néo-réalisme s'applique aussi bien au décor qu'au corps de ses acteurs, qu'il aime trouver dans la rue plutôt que dans les agences. Roberto Rossellini et son cinéma, un itinéraire singulier dans un siècle bouleversé.
Vertigo 8 volte, viaggio in Italia 15 volte, e tu puoi vivere senza Hitchcock e Rossellini.
L'être vivant est toujours en balance entre deux tendances qui sont en lui. C'est la peur et le désir. Alors le désir t'amène à l'aventure, la peur t'amène à la non-aventure.
Lo strumento aiuta le mani dell'uomo a fare, e invece la macchina lavora al posto delle mani.
Alors, si on réussit petit à petit à avoir confiance en nous-mêmes, le désir prendra le dessus. Et si le désir prend le dessus,
ora ti mostro l'utilizzazione pratica.
Notre vie deviendra extraordinairement aventureuse. Et l'aventure devient quelque chose d'extrêmement exaltant. Alors il ne faudra pas exagérer dans l'exaltation de l'aventure, puisqu'alors on peut arriver aussi aux choses farfelues. Le farfelu est toujours là, présent. Il peut se manifester d'un côté ou de l'autre, vous voyez. Il faut tâcher de rester dans les limites de la sagesse. Je dis les limites de la sagesse, puisque c'est des équilibres bien précis dans lesquels il faut effacer soi-même, dans lesquels il faut effacer les orgueils, dans lesquels il faut effacer les ruses, et être dans les choses concrètes, précises, etc.
Io vorrei che quest'opera che abbiamo ora conclusa non servisse soltanto d'esempio, ma anche come stimolo per le generazioni future.
Je crois qu'on va intituler le l'essere documentaire Roberto Rossellini, Vie ouverte.
Si ritrova e si specchia nelle proprie opere.
Oui,
ciascuna delle quali rappresenta i suoi limiti e la sua capacità di invenzione.
Roberto Rossellini, Vie ouverte.
Vous employez un mot, un adjectif qui ne correspond pas. Vous dites grand. C'est pas du tout grand. C'est simplement, moi, je suis un égoïste, je vis la vie comme elle me plaît. Elle me plaît de cette façon, il n'y a rien de grandeur dans tout ça. Simplement, je fais l'effort tous les jours, quotidien, c'est quotidien, je tâche de démolir un tout petit peu mon ignorance. Donc, tous les jours, je fais une petite découverte. Alors, je suis toujours dans l'aventure. Je me console pas avec ce que je sais, puisque je n'ai aucun besoin de me montrer, de plaire, je m'en fous complètement. Moi, je trouve le grand goût de la vie, c'est de vivre la grande aventure de la vie.
So bene che si dice di me che non sono un artista, ma uno scienziato e pedante. È vero. È vero, adesso mi interessano l'astronomia e le matematiche.
Leon Battista Alberti.
Ma la scienza e l'arte hanno in comune la speranza di un cammino del genere umano. E non vi è arte che ignori la scienza. Io ho sempre affermato che il pittore deve essere dotto in quanto i possa in tutte e sette le arti liberali: grammatica, dialettica, retorica, aritmetica, geometria, astronomia, musica.
Federico Rossin, historien du cinéma et programmateur indépendant.
Cette scène-là, qui dure deux minutes, dans cette scène-là, Rossellini fait un autoportrait. Vraiment craché de lui-même, de ce qu'il veut du cinéma, de ce qu'il veut de l'art, de ce qu'il veut de la transmission pédagogique, de sa mission dans ce monde.
Et non vi è arte che ignori la scienza. La pittura è scienza della visione prospettica sulla quale si fonda il lavoro del pittore.
Dit au spectateur, attention, on nous a toujours appliqué cette phrase, les choses sont là, pourquoi les manipuler? Et lui, il dit, les choses sont là, il ne faut pas s'arrêter à l'apparence des choses, il faut étudier, être scientifique et artiste pour arriver au noyau des choses qui sont là. Il est en train de dire, voilà, qu'un cinéaste qui ne connaît pas le monde qui filme, il ne le voit pas, il ne peut pas le voir.
C'est vrai, la prospective est chiarissima.
Adriano Apra, historien du cinéma.
Évidemment, j'étais très jeune, donc, soit l'âge de lui, soit le statut d'artiste. Et en plus, j'étais timide. Mais ceci dit, il était très ouvert. Il écoutait les gens. Il parlait simplement. Mais il avait des points fixes sur lesquels il revenait souvent. Donc, très ouvert, ma timidité se compariva. Et donc, j'étais en très bon rapport avec lui.
Personnellement, je crois qu'il n'y a pas un goût du public. Il y a un goût du public qui a été soigneusement construit. Alors, si ça c'est vrai, je ne vois pas du tout pour quelle raison il y a bien des gens qui sont très autorisés de suivre ce goût et de le contenter. Mais je crois qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir le rêve de faire changer ce goût. Et je crois que c'est très fertile, ça. Pour quelle raison il faut le refuser ?
Le cinéaste néo-réaliste, entre guillemets, Rossellini, Visconti, Giuseppe De Santis, Vittorio De Sica et autres, dans l'Italie de l'après-guerre, était impatient de faire des films qu'il ne pouvait pas faire pendant le fascisme. Donc, une nouvelle réalité, néo-réalisme, qui est un mot inventé en France.
Roberto Rossellini avait loué un studio de fortune, 540 mètres sur 180, appartenant à Liborio Capitani. Il fit construire quatre décors, la sacristie, la chambre de Marina, le bureau de la Gestapo et le salon. Tous les uns à côté des autres. Quelques accessoires, comme le piano, durent être loués. Mais la plupart des meubles venaient de chez Roberto Rossellini ou Mickey. Et presque tous les costumes étaient les vêtements des acteurs eux-mêmes. Dans le même bâtiment, au numéro 30, au-dessus du studio, se trouvait un bordel dirigé par Tina Trabucchi. Rossellini allait s'y reposer quand il était fatigué. Mussolini l'avait fréquenté pendant les années où il habitait près de là, Via Rasella. Le bordel avait pour principaux clients les soldats alliés. Les soldats déambulaient souvent en état d'ivresse et se perdaient dans l'obscurité, de sorte que pendant tout le tournage de Roma Città Aperta, ils vinrent frapper par erreur à la porte du studio. Le premier soir, ils furent accueillis par un prêtre, Fabrizi, qui leva les yeux au ciel, implorant le pardon, et les dirigea solennellement vers la porte adéquate.
Il faut bien se rappeler ce qu'il était le cinéma en 1945. C'était une cérémonie, un rituel qu'on célébrait dans un temple, que c'était un studio, et il fallait rester cloué là-dedans. Et à ce moment, nous étions tous foutus par le capital qui nous tenait là-dedans avec le cou sous l'eau. Alors, l'important,
ça,
c'était...
Ça n'a pas changé, tu sais.
Oui, je viens au point là qui est important. Ce qu'il fallait faire, il fallait inventer un système pour que chacun qui avait dans les tripes quelque chose à dire puisse le dire sans être victime de ça. Alors nous avons commencé par sortir des studios pour aller dans des vrais décors. Nous avons dû inventer comment coller les lampes au plafond. Nous avons dû inventer un tas de choses qui nous libérait un peu.
Sur cette histoire du néo-réalisme. Bon. À l'époque, ils formaient un groupe. Même des cinéastes qui ne sont pas du tout néo-réalistes ont fait des films néo-réalistes. Même des films commerciaux ont quelque chose de néo-réaliste. Mais avec le temps, on voit plutôt que les ressemblances, les diversités profondes. Rossellini est l'opposé de Visconti. De Sica est l'opposé de De Santis.
Le tournage avait lieu la nuit, car on ne pouvait pas compter sur l'électricité pendant la journée. On ne pouvait pas compter dessus la nuit non plus, mais les risques des pannes de courant étaient moindres. Et il était plus facile de voler l'électricité au bureau voisin de Stars and Stripes, le journal de l'armée de terre américaine. Rossellini passait beaucoup plus de temps dans la petite épicerie à côté du studio à téléphoner pour trouver de l'argent et de la pellicule que sur le plateau à diriger.
Voilà, je réinvente mon écriture. Il n'est pas quelqu'un qui fait de l'illusion du style, mais il fait de la réinvention en permanence parce que il ne croit pas à la figure de l'auteur, de l'artiste. Il ne croit pas du tout. Et donc, c'est quelqu'un qui balance complètement une sociologie des arts avec le rôle de l'artiste. Qui est... Pour lui, c'est un créateur d'abord, Et c'est un créateur qui fait avec le réel les contraintes des productions. On dit qu'il était beaucoup plus souvent au téléphone dans Roma Città Aperta plus que sur les plateaux. Ben oui, parce qu'il réglait des questions d'argent. Donc la question de l'argent aussi est très importante chez lui. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Comment je peux inventer tout ça? Donc, ce n'est pas l'enfant gâté américain Orson Welles, génie, mais qui fait péter la boîte parce que ça ne lui suffit pas. Non, lui, il a deux crayons, une feuille, voilà. J'ai affaire qu'avec ça.
Pour commencer le film, j'ai vendu mon lit, déclarait-il un an plus tard. Après, ce fut le tour d'une commode et d'une armoire à glace. Parfois, la pellicule vierge ne se trouvait qu'en petits bouts qui restaient d'autres projets. Ou en rouleaux, fabriqués pour les appareils de photo Leica. À un certain moment, il semble que ce fut un reporter américain, Donald Dawes, qui vint à la rescousse, subtilisant de la pellicule aux agences de presse.
L'esthétique de Rossellini dérive des problèmes de production. Toute sa vie, il a fait qu'un film coûtait le moins possible. Il n'y avait pas beaucoup de moyens pour trouver illuminé d'une façon correcte. C'est un film à la lumière incorrecte. Et c'est ça qui a fasciné, parce qu'on n'avait jamais vu ça sur l'écran.
Pater nostre, qui es in cieli, santificetur nomen tuo, adveniat regnum tuo.
Donc on explique des solutions esthétiques parce qu'elles coûtent moins. Il est arrivé à tourner en plan séquence parce que c'est plus rapide. Dans Voyage en Italie, il a employé des spots, c'est-à-dire il mettait des bras à pression en haut, où il appuyait des petites lampes, de manière que quand on changeait d'angle, on ne devait pas changer l'illumination comme c'était fait normalement. À mon avis, il partait de l'économie. L'économie produisait une technique, et cette technique produisait une esthétique. Il avait dit à un ami de moi, a posé cette question à Rossellini, mais comment vous faites à établir quel est l'angle duquel faire un plan? Et Rossellini lui a répondu, c'est le plan, c'est l'angle où il y a plus d'informations que tu veux communiquer.
Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas.
Celui qui croyait au ciel.
Adorait la belle prisonnière des
celui
soldats.
Qui n'y croyait pas. Tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats.
Et lequel guettait en bas.
Lequel montait à l'échelle et lequel guettait
ciel,
en bas.
Celui qui n'y croyait pas.
Celui qui croyait au ciel, celui
qu'importe
qui n'y croyait
comment
pas.
Comment s'appelle cette clarté sur leur
qu'importe
pas.
Comment s'appelle cette clarté sur leur
et
pas.
S'y déroba.
Que l'un fut de la chapelle celui et l'autre s'y déroba, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait
tous
pas.
Les deux étaient
tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras. Et tous les deux disaient qu'elle vive, et qui vivra verra.
Et qui vivra verra.
Guarda, prete, guarda, sei soddisfatto. Questa è la tua carità cristiana. Questo è il tuo amore per il tuo fratello in Cristo. Hai preferito vederlo ridotto così piuttosto che parlare, ma non sperare, prete ipocrita, di salvarti. Né di salvare i tuoi complici. Farai la fine dei traditori. Noi vi distruggeremo tutti, tutti, fino all'ultimo.
Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa. Et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, il coule et se mêle à la terre qu'il aima. Pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes. De Bretagne ou du Jura, des framboises ou mirabelles, le grillon rechantera. Dites flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda.
La rose et le réséda, Louis Aragon.
Volevate uccidere la sua anima, avete ucciso soltanto il suo corpo. Maledetti! Maledetti! sarete schiacciati nella polvere come dei vermi maledetti.
Miracolosamente intatta, la città saluta i liberatori. 4 giugno 1944.
Paisa, 1946.
E puis Paisa, il a pris un des plus grands chefs opérateurs italiens, qu'il a employé, Otello Martelli, qu'il a employé aussi dans Stromboli. Donc Otello Martelli, c'est un super professionnel et qui a été mis dans l'île de Stromboli ou dans l'île de les lieux de Naples pour faire une photo documentaire, pas la photo à laquelle il était habitué.
Et donc la forme doit se plier à la traduction. Et donc un autre, il aurait fait une prouesse de beauté pour la beauté. Jamais Rossellini. Si on regarde le montage de Paisa, par exemple, c'est des plans factuels. Il n'y a pas une seule transition dans tous les films. C'est des coups à chaque fois. Moralement, on ne peut pas faire du cinéma sur cette histoire-là. Et c'est ça la question. Je ne peux pas faire du cinéma sur ça.
Come on the train, we have to get ready to go home. It's going to take me home for another celebration. They just celebrate for me every day. Going home.
I don't want to go home. My home is an old shack with 10 cans for doors. I don't need that key. I don't want to play no more.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, Paisa, le film?
Alors, c'est 6 épisodes sur la libération du pays, du sud au nord. Et c'est, encore une fois, pour Rossellini, c'est une forme de libération, mais qui amène aussi vers la mort, comme souvent chez lui. Donc, on remonte le pays, passe du sud, Naples, les Américains, tout ça, Rome, mais Florence aussi, avec cet épisode donc de la résistance, les derniers jours de la résistance à Florence, et après, et on arrive à la plaine du Pô à la fin, avec ce morceau de cinéma inoubliable, avec c'est l'hiver 44, et les nazis qui raflent tous les territoires, où en gros les partisans, les maquisards sont mêlés aux pêcheurs, au peuple italien qui les aident, et rien est désigné. C'est difficile à expliquer. Tout est mis sur le même plan. Il n'y a absolument pas des pics dramatiques dans la construction de l'épisode. Il y a une tension permanente, mais qui ne débouche pas sur une montée dramatique et une explosion. Même la mort finale, c'est plutôt un repli qu'une explosion. C'est ça aussi qui est absolument foudroyant. C'est-à-dire, il est antidramatique dans ce sens-là. Il y a absolument, la tension, elle est là, mais elle n'est pas là pour créer, comment dire, une construction qui va se développer. Il n'y a pas de développement parce que les choses sont déjà là. Elles sont données telles quelles, d'une manière abrupte. Donc on est au milieu de quelque chose, c'est une tranche de vie, à la figure, comme ça. On n'a jamais vu le monde comme ça, tel quel, avec cette sorte de carottage impitoyable, la lumière, voilà, qui égalise le monde. Il n'y a pas de lumière des studios, donc il n'y a pas de dramaturgie par la lumière comme on fait à Hollywood ou dans les studios en Europe. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une, comme disait Francis Bacon, il y a une brutalité des choses.
Where's your mother and father? Dove è mamma e papà?
Mamma e papà non stanno qui, sono morti. E bocco, bum, bum. Capisci? E bocco, bum, bum.
Aurore Renaud, historienne du cinéma.
Pour faire une typologie du néoréalisme, on pourrait voir l'école Destica, l'école Rossellini. Ce sont des films qui découlent d'une problématique d'après-guerre, avec qu'est-ce que c'est de se débrouiller dans ce monde-là et d'essayer de filmer la vie telle qu'elle est. Alors, encore une fois, avec de gros guillemets, parce que cette vie telle qu'elle est, elle est complètement passée par le prisme du cinéma, de la narration, de la technique et de la des personnages. Mais tous ces personnages sont des gens du peuple qui vivent de privation, trouver à manger, trouver un logement, ou Rome ville ouverte qui se passe en 44, qui est à la fin de l'occupation allemande, essayer de s'en sortir dans ce contexte-là, avec une vision morale, de témoignage, de raconter ce qui se... Alors il faut quand même savoir que dans le cinéma italien des années 30, il y avait une propension à filmer déjà dans la rue, des cinéastes comme Camerini. Mais sinon, le cinéma fasciste était un cinéma de studio. Donc l'idée aussi, c'était de sortir de ce cinéma apprêté, de ce cinéma factice, et de se réemparer de la rue pour montrer aux gens, au monde... qu'est-ce qu'ils avaient vécu et à quoi est-ce qu'ils ressemblaient. Il ne faut jamais oublier, quand on parle de Rossellini, que c'est quelqu'un qui a perdu un enfant, qui a perdu son fils Romano. Il s'est senti très coupable de la mort de son fils. Alors, ça peut paraître anecdotique parce que c'est un élément biographique, mais c'est extrêmement éclairant pour comprendre la suite de son cinéma. Parce
qu'il y a deux suicides d'enfants dans le cinéma de Rossellini.
Ah, mais et il y a la mort de la petite fille de Descartes à la fin du Descartes. Donc, ça reste... tout au long de sa vie, quelque chose qui est vraiment ancré. Parce qu'il s'est senti coupable, il n'était pas là quand c'est arrivé, c'était une crise d'appendicite aiguë, il était avec sa maîtresse. Enfin, donc il y a plein d'éléments qui font que, effectivement, la mort de l'enfant reste centrale. Alors, ce qui est très intéressant dans le néoréalisme, c'est que cette idée que l'enfant, c'est l'innocence, et que cette innocence-là a été confrontée à la barbarie. C'est ces enfants qui seront le monde de demain, eh bien, on les regarde vivre parce que ils n'ont plus le loisir d'être des enfants. C'est Allemagne année zéro, et c'est cette scène même plus que bouleversante. Je trouve pas le terme, parce que je pense pas que c'est un film très émouvant, Allemagne année zéro, mais cette scène qui est glaçante du suicide d'Edmund. Et ça, c'est effectivement presque au-delà du néoréalisme. Rossellini est allé plus loin que tout le monde.
La Berlin, l'été 1947, ne veut être qu'un tableau objectif et fidèle de cette ville immense à demi détruite. 3,5 millions de personnes vivent une vie désespérée sans presque s'en rendre compte. La tragédie leur est naturelle. Non pas par grandeur d'âme, par lassitude. Ce n'est pas un acte d'accusation contre le peuple allemand, ni sa défense. C'est un constat. Mais si quelqu'un, après avoir vu l'histoire d'Edmund, pense qu'il faut apprendre aux enfants allemands à re-aimer la vie, l'auteur de ce film aura sa récompense. Première seconde d'Allemagne, année zéro.
Aujourd'hui, certains de ces films ils sont canonisés, mais quand on sait que Rossellini a été attaqué, la vision que les Français ont de Rossellini, elle n'est pas du tout. Correspond pas du tout à la vérité de l'histoire de Rossellini. Et Rossellini a été martyrisé en tant que cinéaste les trois quarts de sa vie. Il a eu juste la parenthèse de la trilogie de la guerre, et après il a été toujours laminé et critiqué parce qu'il est sorti du néoréalisme. Parce que cette parenthèse-là était finie pour lui. Il a compris des choses et il passe à autre chose. Il y a un mot de Pontalis, un titre de Pontalis qui me fait penser à Rossellini, l'amour des commencements. C'est quelqu'un qui est un amoureux. Une fois que les choses sont passées, il doit tomber amoureux encore. Et donc il passe à autre chose, à notre femme, à notre film, à notre vie. Et il le fait. Mais ça reste la même personne.
Sei qui straordinariamente qui per me e sto.
Le 7 mai 1948 au soir, écrivit Roberto, je reçus un coup de téléphone de monsieur Pozzius de Minerva Film qui voulait me voir pour me faire un beau cadeau. Je crus qu'il faisait allusion à mon anniversaire le 8 mai, d'autant que je lui avais vendu Roma Città Aperta. Le lendemain, il m'apporta la lettre qu'il avait déjà lue. Normalement, comme beaucoup de Romains, Roberto avait peu de respect pour le courrier. Non seulement il ne répondait pas aux lettres, mais souvent il ne se donnait même pas la peine de les ouvrir. Si c'était important, il téléphonerait, disait-il. Mais pour la circonstance, l'étrange écriture sur papier bleu, plus les timbres étrangers, puis l'excitation évidente de Pozzus, piquèrent la curiosité de Roberto. Il demanda à Liana Ferri de lui traduire la lettre. Cher monsieur Rossellini, j'ai vu vos films, Rome, Ville ouverte et Païsa, et je les ai beaucoup aimés. Si vous avez besoin d'une actrice suédoise qui parle très bien l'anglais, qui n'a pas oublié son allemand, qui n'est pas très compréhensible en français et qui, en italien, ne sait dire que ti amo, je suis prête à venir faire un film avec vous. Meilleures salutations. Ingrid Bergman.
Et il va s'intéresser par l'amour d'une nouvelle femme à Ingrid Bergman, à l'âme humaine et à l'épreuve de l'âme humaine, la traversée de l'âme humaine dans l'après-guerre.
I think maybe when I switched from American movies to Italian movies, of course that was my own choice. I wanted to try to do.
Je crois que quand je suis passé des films américains aux films italiens, je voulais faire partie du néo-réalisme, de ce que j'avais vu dans les films de Roberto Rossellini. J'en avais très envie. Mais je n'avais pas réalisé qu'il travaillait avec des amateurs et c'était terriblement difficile de travailler avec ce genre de gens quand vous aviez travaillé 10 ans à Hollywood, que les gens connaissaient leur dialogue, comprenaient les lumières, comment ils devaient se déplacer par rapport à la caméra. Alors que les acteurs amateurs italiens ne savaient même pas quand ils étaient supposés parler. C'était si difficile. Parfois, je n'étais pas loin d'abandonner. Vous savez, à Hollywood, à l'époque, c'était comme un rêve. Tout était là. Les gens étaient tous des spécialistes. Si vous vouliez un éléphant rose, on vous trouvait un éléphant rose. Des trains qui volaient, tout ce que vous vouliez. Un coup de téléphone et on vous l'apportait pour le lendemain. Il y avait un nombre colossal de gens sur les tournages qui s'occupaient de vous. J'étais très gâtée. Alors que quand vous tourniez en Italie, vous deviez tout faire vous-même. C'était épuisant. Mais c'était ce que je voulais et j'ai eu ce que je voulais.
Hello.
Good evening. Beh, what you say?
It's cool tonight.
What?
It's cool, cold.
Che ne conti? Invece le cose belle, cold, cold.
I don't understand you.
I can say in English.
Stromboli, Terre de Dieu, 1949.
Ragazzi, allontanatevi. Qui non si può stare.
E lasciatemi un po' in santa pace.
Io non posso passare nei guai.
Già, perché
voi.
Non ne passeremo poco di guai. Va bene, me ne vai.
Les lieux que Rossini filme dans Païsa et l'île de Stromboli, à l'époque, c'était des lieux sauvages. Donc, où il n'y avait pas de moyens. Et ça devait être vraiment comme des explorateurs qui doivent s'arranger avec ce qu'ils trouvent. Ils n'ont pas le confort du cinéma moyen. Ingrid Bergman, quand elle est allée sur l'île de Stromboli, ne croyait pas à ses yeux que son amant l'avait porté dans cette île déserte, pas déserte, il y avait des habitants, mais où il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau potable, on prenait l'eau dans des puits.
Il y a quelque chose de la fabrication, de l'artisanat qui l'intéresse. Pour lui, artisan et art, c'est la même chose. Et donc, fabriquer un film, fabriquer une bolle en bois, c'est pareil. Il faut un savoir-faire. Et après, on oublie. C'est-à-dire, les grands artisans nous font oublier qu'il y a ce travail-là. Exactement la même chose. Le fait que lui, il est accusé de négliger l'écriture comme ça. Non, c'est que sa façon de fabriquer est une façon de fabriquer expérimentale. Et donc, c'est très intéressant de le voir à contact avec des gens qui ne viennent pas de, qui viennent de milieux carrés. Ingrid Bergman qui se retrouve et qui dit « Ah tiens, mais ça c'est de l'amateurisme ». Voilà, malheureusement, elle est passée vraiment à côté de tout ça. Après, elle est extraordinaire dans ce film, mais le fait que Rossellini écrit vraiment quand il est sur le plateau, c'est-à-dire qu'il est en train d'ajuster la technique à l'idée qui est en train d'évoluer en lui, et donc c'est l'existence.
What's the matter? Che c'è? Huh? Say something more.
No. Donc c'est des films d'histoire contemporaine. Qui sont une prolétaire ex-collabo, qui se retrouvent coincés. C'est des êtres qui sont coincés quelque part. Coincés sur une île, coincés dans la classe sociale Europa 51, coincés dans un tourbillon d'anges et dans la Giovanna d'Arco a Rogo, coincés dans la peur et la bourgeoisie, la paura. Voilà. Être coincé dans ce monde. La prison. Les années où Sartre écrit ses pièces de théâtre, voilà pour le. Et après, repartir à nouveau, dans notre continent, India Matribhumi, nouvelle forme de réalisme, qu'est-ce qu'on fait? Ethnologie, anthropologie, quelque chose. Donc, encore une fois, les fondations de l'homme, mais ailleurs. Et la modernité, comme toile de fond, là aussi.
Paisa, c'est à l'échelle du pays. Après, à l'échelle de l'Europe, avec Allemagne année zéro. À l'échelle d'un autre continent, avec l'Inde. Et avec le projet télévisuel, à l'échelle de l'histoire de la pensée. Donc, il y a constamment cette idée d'ouvrir et d'aller du microcosme au macrocosme. Et c'est toujours lié à un moment d'histoire personnelle. Il se sépare d'avec Ingrid Bergman. Et c'est son ami Jean Renoir qui lui conseille d'aller tourner en Inde. Lui, il revenait d'avoir filmé le fleuve. Et donc il avait des contacts là-bas. C'est aussi parce qu'on lui a proposé qu'il avait un assistant français, Jean Vautier, avec lequel il est parti, une petite équipe. Donc il filme dans les différentes régions qu'il visite avec toujours cette idée de ne pas faire un voyage touristique. Et c'est en se confrontant à cette autre culture et à cet autre continent qu'il va commencer à avoir un instinct ou une envie. Il était déjà travaillé par le projet de travailler plus large.
Le film de ce soir est Inde, vraiment le titre c'est Inde Matribhumi, c'est-à-dire c'est l'humus de la terre. Là c'est un film que j'ai fait vraiment expérimentalement, je pourrais dire. Non, j'ai tâché de mettre sur pellicule ce que je pensais d'une façon peut-être théorique. C'est un film que j'aime beaucoup puisque c'est là que j'ai tâché de faire une tentative d'un renouveau dans le domaine de la connaissance, de l'information. Et une information qui ne soit pas strictement scientifique, qui ne soit pas strictement statistique, mais qu'elle soit aussi une certaine documentation des sentiments, des façons de se conduire des hommes. C'est aussi, si vous voulez, dans un certain sens, un film ethnologique.
Pour moi, Rossellini, c'était d'abord les œuvres pour la télé. C'est-à-dire, j'étais gamin, et le samedi matin, ma mère était institutrice, les samedis matins, chaque samedi matin, il montrait, la série s'appelait Rossellini in TV, un maestro dimenticato. Donc, Rossellini à la télé, un maître oublié. Et c'était, je pense, au milieu des années 80. Sur Rai 3 le matin. J'imagine, peut-être c'est pas exactement factuel. Et donc le samedi matin, on n'allait pas à l'école. Je pense que j'étais au début du collège. Et ma mère disait, bon, regardons ça. Donc elle faisait le ménage du samedi matin et ma sœur et moi, on regardait à la télé Agostino d'Hippona, Socrate, Gli Atti degli Apostoli, voilà. Et pour moi, ça a été, et L'État di Cosimo, qui pour moi, c'est un des plus beaux films de Rossellini, sans aucun doute. Et donc pour moi, c'était d'abord ça, Rossellini, d'abord ça.
Allora, aspetti, aspetti.
Silenzio, per favore.
No, no, devi precedere. Come lui si muove, te ne vai d'accordo.
Donc il va vers quelque chose qui est quasiment expérimental. Moi, je le vois vraiment comme un travail expérimental, son travail à la télévision, mais qui rejoint aussi des mots d'ordre qui sont ceux de la télévision à l'époque, aussi bien en Italie qu'en France avec l'ORTF, cette idée de d'éduquer le public. Et il a toujours su prendre le vent, hein, Rossellini. Donc il avait envie d'aller dans cette direction-là, mais ça correspondait aussi à des facilités de production. Donc il s'est un peu engouffré dans cette porte. Et à partir de là, effectivement, d'abord, ça a été difficile à mettre en place. Et quand il a fait Louis XIV, qui a très, très bien marché, qui a été très bien reçu aussi par la critique française, ça a tout débloqué. À partir de là, il a eu des coproductions très faciles entre la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Et il a pu, pendant plus de 10 ans, hein, faire des films. Et il les a enchaînés. Si on regarde, Louis XIV, c'est 66, Les Actes des Apôtres, c'est 68. Après, il enchaîne le Socrate, 69. Ça déroule.
Va bene.
Qu'est-ce qu'un film à la télé? Qu'est-ce que le moyen que la télé permet et techniquement et de diffusion par rapport à ça? Et après, toute une série d'œuvres sous forme d'abécédaire et la lutte de l'homme pour sa survivance, l'âge du fer et des films ici par là, un film sur Turin, un film sur la Sicile, voilà, qui... dont l'idée de ses intérêts multiples est très variée.
Poi si inginocchia, no? Marcella?
Sì, dopo il dialogo. Avec l'âge de fer, qu'avez-vous entrepris de montrer et de prouver?
L'âge de fer, c'est exactement une période historique. Il y a l'âge de la pierre, l'âge du bronze, il y a l'âge du fer. Et c'est une période historique dans laquelle les techniques se sont développées. Et c'est comme ça que j'ai tâché d'avoir un aperçu sur ça pour prendre visuellement conscience de ce qui s'est passé.
C'est un film à la fois historique et documentaire.
Oui, mais c'est surtout historique, oui.
Et votre but est à la fois d'enseigner, de distraire,
oui.
Et tout de même de laisser une certaine philosophie au spectateur.
Bon, le spectateur doit la trouver soi-même. Je ne suis pas un philosophe, non, moi je ne donne aucune philosophie.
Et que souhaitez-vous que le spectateur trouve et retienne de vos films, de l'âge de fer?
Moi, si le spectateur peut, ça peut lui servir pour s'orienter normalement dans les faits qui nous touchent de la vie quotidienne, ben, je crois que c'est assez. Non?
Et c'est exprès que vous avez choisi de réaliser ces films pour la télévision?
Oui, puisque la télévision consent de dédier le temps nécessaire, puis on passe en tranche et ça fait une série, voilà, et on a le temps d'explorer un problème à fond.
Je suis de plus en plus convaincu que Rossellini était un avant de 10 ans. Avec ses films de télévision, il était un avant de 10 ans, puis il est mort, parce que la meilleure façon de voir ses films, c'est en DVD, pas en projection. En DVD, dans le sens que tu peux revenir en arrière, arrêter l'image, parler sur le film. Ce sont des films vraiment didactiques, comme il le disait. Mais didactiques dans le sens qu'aujourd'hui, un prof de philosophie peut faire voir Cartesius ou Pascal à une classe en dialoguant avec le film, entre le film, les étudiants, le professeur. Il a fait des essais cinématographiques en forme de fiction. Ce qu'on appelle surtout dans les pays anglo-saxons « essai-film », un film qui est l'équivalent de l'essai littéraire. Il y a des grands essayistes, non, à partir de Montaigne avant. Rossellini a compris ce concept, même s'il ne l'a pas formulé de cette manière. Seulement, il les a fait en forme de fiction.
mais c'est une fiction où les caractères, les personnages parlent comme des porte-paroles, c'est-à-dire pas en tant que personnages, mais en tant que disent des choses qui reportent des choses. Non. Donc ils ne jouent pas.
Et après, la question, donc on l'a accusé d'éclectisme, de ne pas avoir de style. Non, c'est la question, c'est qu'il faut, il réinvente à chaque fois et il adapte à chaque fois la forme à l'idée. Donc c'est l'idée qui compte. C'est-à-dire que pour moi, c'est un cinéaste philosophe. Il y a une unité absolue dans son œuvre. Il y a depuis le début une idée encyclopédique autour du savoir de l'homme en soi, que Rossellini, c'est un des rares à s'être intéressé aux cultures ailleurs. Tous ses films sont des essais filmiques. C'est des tentatives de trouver la porte d'entrée pour connaître et aller au noyau philosophique de l'être humain. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la joie? Parce que Rossellini, c'est quelqu'un qui a toujours fait l'expérience de ce qu'il pensait, de ce qu'il voulait arriver à penser. Il est socratique. Donc la promenade est une figure, par exemple, de tous ses films. Donc il y a une comment dire, s'éprouver au réel à la montagne, exactement à la montagne. Donc chaque film, ça pourrait être, voilà, les essais. On pourrait appeler l'œuvre de Rossellini les essais.
Pellegrin che vien da Roma
al Val di Ros, al Val di Ros,
con le scarpe
rotte per di Roce va, di Roce va.
Pellegrin che vien da Roma con le scarpe rotte per non appena fu arrivato al Val.
Daniel Toscan du Plantier, 1987.
Eh bien, un jour, je venais d'arriver à Gaumont, 74, ma secrétaire, c'est la même qu'aujourd'hui, m'a dit, il y a un monsieur Rossellino au téléphone. Alors je me dis, tiens, ça ressemble au nom de l'autre. Et je l'ai pris, puis j'ai entendu, allô, c'est Rossellini, j'ai entendu comme ça, j'entends encore la voix. Et puis moi, je lui ai dit, mais est-ce que vous êtes parent du réalisateur? Il m'a dit, non... Je suis le réalisateur lui-même, hélas.
Buonasera, signor Ostelvalviros. C'è una camera per me. Buonasera, signor Ostel, c'è una camera per me.
J'entrais dans le cinéma, je ne savais pas très bien quels étaient les critères même de cette entrée, autrement que la recherche d'une sorte de plaisir, mais j'arrivais pas à trouver le concept même dans un métier qui se vivait déjà à l'agonie. C'est son activité principale que de se vivre à l'agonie en général. Et d'un seul coup, j'ai vu vous savez, comme disent les philosophes, le corpus d'une pensée permanente où tout était vissé, attaché, clair, avec une sorte d'optimisme fondamental fondé sur la lucidité et le pessimisme le plus absolu, romain quand même, hein, qui existe au monde. Donc j'ai vu là quelque chose de sans équivalent. Hein. Je crois que je fais rien qui ne soit pas... alors, il y a sûrement des malentendus, mais le Rossellini, c'est tellement ouvert que ça, on peut tout faire, on peut même être macro et rossellinien. Bah, surtout macro, parce que ça, il n'était pas contre. Donc, il y a une capacité, mais c'est une espèce de rapport au monde. Hein. C'est plutôt une morale qu'une activité ou une esthétique. C'est sûrement pas une esthétique, ça, c'est bien clair. Et une morale au sens philosophique du mot, hein, parce que c'était pas c'était un moraliste, mais c'était pas un moralisant, c'était le contraire. Donc, tous ceux qui ont eu rapport avec lui, mais on se sent, parfois vous êtes dans un pays lointain, puis il y a un type qui vient vous voir au bar de l'hôtel, au bout de 10 minutes, vous avez connu Rossellini, vous reconnaissez les traces, c'est comme une sexualité. Hein. Être rossellinien, c'est une attitude d'abord professionnelle, bon, c'est très clair, le rossellinien pense que l'évolution de l'audiovisuel et des rapports du cinéma dans l'audiovisuel, c'est une bonne évolution. Ça, c'est très typique, c'est même le seul qu'il pense, puisque tous les autres pleurnichent. L'autre, c'est qu'on n'a pas peur d'une contradiction. Par exemple, Roberto, si on lit le dernier livre, très remarquable, moi je le connais par cœur, parce qu'il m'a dit les mêmes choses l'été d'avant. Je remarque d'ailleurs qu'il l'avait donc vendu deux fois. Ça, c'est aussi très rossellinien, qu'il n'est pas interdit d'être habile et intellectuel. Hein? Et même, il y a un mot à Rome qui est fourbe. Hein? Et même, on dit furbissimo. Par exemple, c'est une qualité. Par exemple, il explique que lui, c'est la chose qui l'intéresse au monde, c'est d'être instituteur. Quoi. Il voulait enseigner le monde, travailler pour l'humanité. Son job, c'est l'homme. Alors, après, il disait, le cinéma, c'est dégoûtant. Les stars, c'est ignoble. Alors, comme par hasard, quand même, on voit qu'il a passé 20 ans de sa vie avec les deux plus grandes actrices à peu près du siècle, Magnani et Ingrid Bergman. Alors, on se dit, bah alors, c'était quoi? Il avait commis des erreurs? Oh non, sûrement pas, parce que je crois qu'il n'a jamais nié que c'était pas mal, Rossellini et Bergman, et puis c'était mieux pour faire les films. Ça, c'était le mensonge rossellinien, qui fait partie du rossellinisme, que la vérité, elle est globale.
Pour moi, c'est l'invention à chaque fois d'une... Comment dire, c'est un cinéaste de la dépense. Il ne récolte jamais les fruits de ce qu'il a fait. Il les laisse aux autres. Et pour moi, ça, c'est un acte d'humilité absolue. Et sur ça, moi, quand j'entends les jeunes à l'école de cinéma qui parlent déjà « je suis un auteur », je me mets les mains dans les cheveux parce que lui, je pense qu'il n'a jamais parlé de lui-même comme auteur. Jamais. Il voyait d'abord l'artiste comme un homme dans le monde et qui a des devoirs vers le monde. C'est une exigence politique et civique immense. On est vraiment très très loin de la conception cinématographique d'aujourd'hui, hein.
Onze Fioretti de Saint-François d'Assise, 1950.
Adieu, sorella, que Dieu vous bénédique. Adieu, bene. Adieu, bene, fratello. Adieu.
Ils sont dans la campagne, ils marchent. François est entre eux, au milieu d'eux, pas en tête. Mais une fois arrivé près d'un cippo, il parle à ses frères, il parle à ses aignaux, parce que pour lui, ils sont des aignaux, des gens simples. Lui, quand même, on le sait par sa biographie, c'est un intellectuel qui a abandonné ses privilèges. Puisque les frères demandent où devons-nous aller à prier, à diffondre la nouvelle idée de François. Il dit, mais faites un tour sur vous-même, et quand la tête vous tourne et vous tombez, là c'est la direction correcte. Et évidemment, dans cette idée que je ne sais pas si c'est dans les Fioretti ou c'est inventé par Rossellini, il indique que les frères doivent aller où l'instinct les dirige.
Mais non, tu gires la tête.
Non.
Le frère, un non-acteur que Rossini aimait beaucoup parce qu'il l'avait déjà employé.
Non, te gira encore.
Non.
Et la tête ne lui tourne pas, comme les autres sont déjà tombés. Et maintenant, elle dit, ah oui, oui, je commence alors.
Ma ti senti bene?
Ora mi gira.
Vieni, Giovanni, vieni.
L'autre frère l'aide, il tombe. Et alors François demande à chacun où est-ce que tu es tombé, en quelle direction.
Et tu, Amantia Bene, verso dove sei caduto?
Verso Siena, come me.
Et tu, Bernardo?
Verso Firenze.
Un dit Pise, un dit Florence, un dit Arezzo. Et quand le vieux demande, dit quelque chose, où est-ce que tu es tombé? Ah, je suis tombé là où il y a ce petit oiseau dans le sur l'arbre.
E tu seguirai quel pinguello che certamente la via che t'ha indicato il Signore.
Et alors François dit, ça veut dire que c'est ça. Il y va vers les oiseaux. C'est ça ta destination. Et c'est un cercle, tout ça. Et cette idée du cercle, c'est évidemment l'idée de l'harmonie. Ils sont en train de se séparer, mais en partant d'une harmonie collective. Et le plan reste fixe à suivre quelqu'un d'eux qui est parti et puis va vers le ciel. Et le ciel, c'est pas Dieu, à mon avis. C'est l'infini, c'est des nuages dans le ciel. Plusieurs nuages. Et il panoramique même sur les nuages, il fait ici un fade out, et il y a le mot fin sur un tout dernier plan. Et ça, c'est l'infini, à mon avis.
C'est justement le film de l'innocence. Et de l'innocence comme moyen de lutte, au lieu, non ? C'est cette innocence que j'avais quand même découvert déjà en paysage, dans l'épisode que j'avais tourné dans le couvent des moines franciscains. C'est encore l'innocence mais pleine de foi, si vous voulez, du miracle. Et c'est sur ce thème de la force, de l'énorme force de l'innocence que j'ai voulu reprendre avec la fierté de Saint-François. Et alors, c'est aussi en même temps une tentative de faire un film historique, mais avec des éléments profondément réels, c'est-à-dire de reconstituer ce que probablement ou sûrement était la vie alors.
Questa sera Maggia dice della festa da dimane.
Alors, ce qu'il faut savoir sur Saint-François, le film sur Saint-François, c'est que Rossellini s'est servi d'un texte qui a été écrit à l'époque par un frère, très peu de temps après la mort de Saint-François, qui a écrit cette vie, alors complètement hagiographique, de Saint-François, ces Fioretti, ces petites fleurs, qui sont des histoires disjointes, pas du tout chronologiques, sur différents moments saillants de la vie de la première communauté franciscaine. Il s'est servi aussi d'autres textes sur d'autres compagnons. Alors le plus évident, évidemment, c'est Ginepro, le deuxième personnage principal du film, pourrait-on dire, parce que si on regarde dans la répartition narrative du film, Ginepro est presque plus important que Saint-François. Et ça, je pense que c'est très important pour Rossellini, parce qu'il voulait vraiment montrer une communauté des égaux, où Saint-François était le leader, mais ne prenait pas de place, plus de place que les autres. Et d'ailleurs, l'interprète, qui est un vrai, ils se sont tous de vrais franciscains, il y a toujours une manière pour Rossellini, dans cette vie de Saint-François, de décaler un peu, de pas être tout à fait dans la lignée de ce qu'on a pu dire de la vie de Saint-François ou de ce qu'on a pu montrer dans les fresques de Giotto.
Un homme de ma génération a vu changer le monde totalement. J'ai vu arriver les autos, j'ai vu arriver les avions, j'ai vu arriver la radio, j'ai vu arriver la télévision, j'ai vu développer le cinéma, et puis j'ai vu ma mère avec des chapeaux mis comme ça sur une chevelure immense et avec des plumes, puis je l'ai vu avec les cheveux coupés, puis j'ai vu des femmes avec des jupes jusqu'aux chevilles et puis les jupes jusqu'aux mini-jupes. C'est-à-dire, tout a changé, la morale, tout change. Donc, si on veut tâcher de comprendre un peu, il faut reprendre toutes les coordonnées, selon moi. Voilà, c'est une méthode que je trouve qu'elle est peut-être bonne, il y en aura certainement d'autres, mais moi j'ai adopté cette méthode. Alors, je tâche d'explorer, et puis rien est nouveau sous le soleil, si vous voulez. Et je crois qu'en étudiant l'histoire à fond, et surtout en arrivant à notre civilisation à travers l'histoire, on finit pour mettre tout ça dans un cadre extrêmement logique qui nous fait comprendre les choses.
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on, en gros, on fait du cinéma synthétique d'animation où l'acteur ne traverse plus l'espace, n'a plus une présence ontologique dans le monde parce que Tout est du chromatique numérique, chromaquie numérique. Le monde est réalisé à l'ordinateur. Il y a plus la présence. Donc, Rossellini, c'est un cinéaste de la présence. C'est un cinéaste de la présence de l'homme dans ce monde. Qu'il soit l'homme des cavernes avec les torches et qui fait de la peinture à Pascal ou à Jésus. On ne filme plus dans le monde aujourd'hui. Il y a quelque chose de disparition de les décors. Voilà, donc même au niveau de montage, l'époque du montage est finie. Oui, il y a une visuelle, c'est autre chose. Donc, je ne vois pas comment. Peut-être Rossellini peut avoir. Il est absolument inactuel, donc je vois pas comment dire, pour moi, c'est les fractions qui fait dans nos vies. C'est la seule manière pour convaincre un jeune de voir ça. C'est la, comme dit Kafka, voilà, c'est une sorte de brise-glace qui arrive jusqu'à ton cœur. Il y a personne qui arrive au cœur de l'âme des gens comme Rossellini. Et qui va au cœur tragique de la vie aussi.
Nous voulons rendre le provisoire définitif. C'est ça toute notre erreur. Hein. Pour quelle raison les civilisations meurent? Puisque nous voulons rendre définitives des choses qui sont provisoires. Tout est axé sur la technologie et on oublie tout le reste. On finit fatalement pour s'effondrer. On ne tient plus debout.
C'était Roberto Rossellini, Vie ouverte, avec Adriano Apra, Aurore Renaud et Federico Rossin.
Non appena fu arrivata il Valbirot, il
Valbirot. Lecture, Émilie Chevrier, Evelyne Guimara, Bertrand Ogilvy et Christophe Simonetti. Merci également à Chloé Dréan.
Buonasera, signor Oste, il Valbirot, il
Valbirot. Mixage, Philippe Thibault. Prise de son, Manuel Couturier. Recherche INA, Marie Chauveau. Attaché de production, Sylvia Favre. Coordination, Anaïs Quien. Un documentaire d'Adrien Chevrier, réalisé par Clotilde Pivin.
Per maggiore sicurezza il Valbirot, il Valbirot. Metteremo un campanello.
Valbirot,
per maggiore sicurezza metteremo un campanello.
Fabrizio, prendi la mia sciarpa.
4 punti.
Fuori fa un gran freddo.
Ah no, è lo stesso.
Vieni. Ma io abito a 2 metri. Sì. Mi fa piacere se la prendi.
Grazie.
Ciao. Ricordati, Fabrizio, non si può mica vivere senza Rossellini.
Quanti punti segno?
10.
C'était toute une vie, une émission proposée par Anaïs Quien avec Sylvia Favre. Retrouvez l'émission, ses podcasts et ses bonus sur l'application Radio France et sur franceculture.fr.